Donc Éphésiens chapitre 6, et avant de nous lancer dans le passage, je vais faire des révisions sur l'Ancien Testament. Vous savez que souvent, des gens, poétiquement ou parfois des cantiques, parlent du Jourdain comme traversée du Jourdain comme le passage dans le ciel. Mais est-ce exact? Est-ce que c'est ce que cela représente? Est-ce que les enfants d'Israël avaient le sentiment d'aller au ciel quand ils ont traversé le Jourdain? Et qu'est-ce qu'ils ont rencontré quand ils sont arrivés? Une fois traversé le Jourdain, qu'est-ce qu'ils ont rencontré? Tout allait bien, tout était beau, tout était merveilleux. Ils ont rencontré les géants, ils ont rencontré la guerre, ils ont rencontré de l'opposition. C'était un combat. En fait, je me suis même posé la question cet après-midi. Je dis, mais bon, quelle partie était plus facile? Est-ce que c'était plus facile dans le désert ou est-ce que c'était plus facile dans Canaan? Dans le désert, il n'y avait pas de combat. Bon, en sortant de l'Égypte, ils avaient eu un combat avec des Ismaélites, mais sinon, dans le désert, c'était la routine, hein, c'était le train-train. Mais la traversée du Jourdain, c'était tout de suite, eh bien, c'était la dépendance de Dieu. Mais dans le désert, c'était, bon, la manne, c'était devenu la routine, hein, on sort tous les matins, on va chercher de la manne, bon, la vie facile, pas d'engagement, confesser le péché, respecter les fêtes, et puis et voilà, hein, c'était. En fait, du côté désert, c'était ce que vivent beaucoup de chrétiens. Hein, c'est pas plus que ça. Voilà, on est fidèle et puis on est toujours là. Même s'il y a eu souvent des problèmes, de la résistance, et des plaintes, et des murmures et tout cela, mais bon, c'était la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, la vie de beaucoup d'églises aujourd'hui. Mais quand ils ont traversé le Jourdain, donc c'était déjà un acte de foi, hein, parce qu'il fallait mettre les pieds dans l'eau avant que l'eau s'arrête. Et puis après, ils ont traversé, l'eau s'est refermée derrière, et ça y est, hein, il y a plus, ils ont brûlé les ponts. C'était, ça y est, ils ne pouvaient plus revenir. Et c'est une fois traversé. C'est là où la manne ne tombe plus. C'est là où il y a la circoncision qui rattrape les 40 ans de, où ils n'ont pas circoncis. Tout ça se fait de l'autre côté. Et on se rend compte combien ils doivent se dépendre de Dieu. Parce que la fois où Josué a oublié de consulter Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Avec les Gabaonites. Oui, ils l'ont. Pourtant, jusque-là, c'était bien passé. Jéricho, oui. Aïe, oui. Victoire sur les sept rois qui se sont réunis. Et puis après, il y a ces gens-là qui arrivent vêtus de vieux habits, avec des gens qui viennent et qui racontent une histoire. Bon, pour eux, c'était une ruse, mais lui, il tombe en plein dedans. Et 3 jours plus tard, il se rend compte que c'est des voisins et qu'ils l'ont eu. Et il va être obligé de vivre avec eux le reste de leur existence. Parfois, les gens nous dépeignent la vie chrétienne comme oui, tu reçois le Seigneur, tout ira bien, il y a les victoires au nom de Jésus, tout s'arrange, tout. Et combien ont été déçus, hein, parce que c'était pas tout à fait ça. Et l'apôtre Paul, eh bien, il nous avertit, hein. Et donc on lit en Éphésiens chapitre 6 et à partir du verset 10, et on va lire juste 4 versets pour ce soir. Donc, Éphésiens 6 et au verset 10, l'apôtre Paul vient de terminer, il vient de parler de la famille, de la relation de mari-femme, la relation de l'enfant avec les parents, la relation du serviteur avec son maître, et pour que tout aille bien. Et là, maintenant, il passe au combat. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc tout de suite, il annonce le combat. Il dit ça, écoutez. C'est pas une question d'attendre que ça arrive, c'est on se prépare tout de suite. Et il nous donne tout de suite l'impression que c'est quelque chose qui nous dépasse, hein, c'est quelque chose qui est au-delà de nos moyens. Hein, quand il dit fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, c'est-à-dire qu'avec moins que ça, on n'y arrive pas. Hein, c'est un peu certainement ce que l'apôtre Paul voulait dire. Aux Philippiens, hein, Philippiens 4, c'est quoi, 13, il dit, je puis tout par, oui, Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans un sens que je ne puis, à moins qu'il soit là, je ne peux rien. Hein, je puis tout, hein, il est, et parfois on le dit, mais trop souvent, on se comporte comme Pierre, hein, souvenez Pierre. Jésus commence à parler, il va dire on va aller à Marseille, à Jérusalem, et on va là le Fils de l'homme va être saisi, on va le maltraiter, et puis finalement on le crucifiera, et puis mais il ressuscitera. Et ben, regardons dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Il faut écouter Pierre d'abord et ensuite voir ce que dit Jésus. Donc Matthieu chapitre 26 et verset 33. Donc Jésus vient de dire au verset 31, je serai pour vous cette nuit, vous tous cette nuit, une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées. Et après, je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et voilà Pierre qui se met à parler. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous, c'est-à-dire tous les autres là, eux, hein, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Vous vous rendez compte? Cette confiance qu'il a, confiance mal placée, parce qu'elle est placée en lui-même. Hein, c'est-à-dire lui, il pense que sa volonté est une force suffisante pour tenir. Hein, bon, c'est bien qu'il a une bonne volonté et qu'il a envie de suivre le Seigneur, qu'il a envie d'être fidèle au Seigneur, c'est très bien. Mais il s'imagine que la force de sa volonté suffira. Et Jésus lui dira, hein, il dira. Au verset 34, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, c'est-à-dire avant le lever du soleil, tu me renieras trois fois. Alors Pierre, il n'est pas d'accord, hein, comme s'il sait plus que Jésus. Et il dit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples diront la même chose. Voilà. Ah, ça c'est des disciples. Ça, c'est super. Ça, des disciples comme ça, qui vont être fidèles jusqu'au bout, qui le promettent. Mais Jésus, il connaît leur faiblesse. Il leur dira dans le jardin de Gethsémané, hein, il va leur préparer, il va leur dire, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est
Faible.
faible. Hein, Jésus le sait, eux le savent pas. Et ils vont rencontrer une épreuve comme ils n'ont jamais eu avant, et donc ils ne connaissent vraiment, ils ne savent pas comment, quelle sera leur performance. Mais regardez plus loin dans le chapitre, dans le même chapitre, hein, Matthieu 26 et le verset 70. Hein, donc, verset 69, cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui. Il dit, toi aussi, hein, tu es avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. C'est-à-dire, je suis au courant de rien. Alors ça, ce nom-là, il dit rien. Ça me... Non, pas du tout. Aucun rapport. Hein? Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante vint et lui dit, ce qui se trouvait là, celui-ci aussi est avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Là, il jure. Je ne connais pas cet homme, je vous assure. Au nom de Moïse, Abraham, Isaac et Jacob, hein, ce genre de trucs. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Tiens, tu as le même accent. Hein. Toi, tu es là-bas, tu as le même accent qu'eux. Et alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et juste à ce moment-là, le coq chante et tout lui revient à l'esprit. Voilà, c'était pas devant une croix, hein. C'était pas quand on allait le battre. C'était une jeune fille qui lui dit, toi, tu le connais, non? Toi, tu es de cette équipe-là. Et alors là, je ne le connais pas. Vous savez, parfois on peut se sentir fort, mais ça ne suffit pas. Hein. Et le Seigneur dit, votre force et votre détermination, vos promesses, votre engagement. Hein, et on le prend bien quand on se fait baptiser, hein, on dit je vais être fidèle au Seigneur, mais combien ne l'ont pas été. Et Jésus connaît notre faiblesse. Et dans Luc chapitre 22, Luc 22 verset 21. Non, c'est pas ça. 22, 21. 20. C'est où Jésus dit, j'ai prié pour toi. Merci. Oui, c'est bien Luc. 30, oui, 22, 32. Oui, 31 30, à 33. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi. Et en prison et à la mort. Voilà. Et ça, c'est-à-dire le reniement de Pierre, c'était avec la prière du Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur a prié pour ce qu'il fallait. Le reste, Pierre était responsable de compter sur le Seigneur. Il y avait une part, Dieu, et il fait pas, il ne protège pas complètement. Il y a une partie que tu peux pas faire, tu peux pas savoir. Moi, je m'occupe de cette partie-là. Mais il y a une partie là où toi, tu dois compter sur le Seigneur. Là, il y a une partie où tu dois exercer de la foi. Et cette partie-là, il dit, toi, faut que tu remplisses ta part. Sinon, tu vas chuter. Moi, t'occupe pas. Moi, je m'occupe de ma part. Et Jésus a prié pour la grosse part. La part parce que Satan allait prendre le cas personnellement. Hein? Satan avait compris que Pierre, c'était une personne clé dans cette histoire, et donc il faut qu'il se débarrasse de Pierre. Quelque part, il faut que Pierre, ça y... Et Satan avait le projet de vraiment, et je ne sais pas ce que ça voulait dire, hein, mais il va être criblé comme le froment. Et Jésus a dit, moi j'ai prié pour toi, pour le gros. Mais toi, faut que tu fasses confiance en moi, hein, pas en toi-même, pour le petit reste que je te laisse. Hein? Et donc, même lorsque nous chutons, le Seigneur est fidèle. Hein? Même lorsque nous faiblissons, le Seigneur est fidèle. C'est sûr, il est fidèle avec sa part. Si on chute, si on trébuche, si quelque part il y a une hésitation, c'est la faiblesse vient de nous. Hein? Donc, toujours. Hein? Et ça nous rassure aussi parce que c'est pas seulement. On dit Seigneur, ça c'est trop pour moi, prends le gros et moi je vais essayer de réussir avec le petit qui reste. Non, non, Pierre n'était même pas au courant. Et combien de fois il y a des choses qui sont peut-être prévues ou qui doivent arriver ou que l'ennemi a des intentions contre nous et le Seigneur est conscient du gros. Hein, il intercède. Il intercède. Il dit j'ai prié pour toi, je prie pour toi. Et donc, quand on arrive à Éphésiens 6, là, il est en train de parler de la partie qui nous revient, hein, dans la vie chrétienne. Le Seigneur intercède pour nous. Le Saint-Esprit, il intercède à partir de notre cœur par des soupirs inexprimables auprès de Dieu. Tout ça marche très bien. Ça fonctionne à merveille. Mais la petite partie qui nous revient à nous, il dit, ça, c'est au-delà de vos forces. Même là, vous avez besoin de compter sur moi. Et donc le verset 11, je reviens à Éphésiens 6 maintenant, il dit, revêtez-vous, et je souligne bien, de toutes les armes de Dieu. Pas une arme. Hein, tu dis, bon, moi je préfère, moi, ça, une, ça me suffit. Non, non. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, sans négliger aucune, afin de pouvoir, donc ça veut dire que si on ne le fait pas, on ne pourra pas, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable sont une réalité. Les ruses du diable sont là. Les ruses du diable sont plus fortes que nous. Et dit, mais je vous donne juste ce qu'il vous faut. Mais il faut tout porter. Hein? Je vous donne les armes de Dieu, mais il faut tout porter. Mais c'est assez. C'est suffisant. Dieu nous donne, il nous donne pas, il dit pas, bon, je vais vous charger comme ça juste pour que vous sentiez le poids. Non, je vous donne ce qu'il vous faut, mais il faut servir du tout. Hein? Revêtez-vous, hein? C'est quelque chose qu'on porte et pas qu'on tient à disposition, mais qu'on porte. Hein? C'est si vous avez lu le livre du pèlerin de Bunyan, eh ben. À partir du jour où il a reçu l'armure, il l'a portée jusqu'à dans la gloire. Une fois, il l'a posé quelque chose à côté, et puis il s'est fait attaquer, il n'était pas prêt. Hein? Donc, et les ruses du diable, bien, elles sont nombreuses, et lui, il manque pas d'imagination, mais il n'a pas de nouvelles non plus. Hein? C'est les mêmes ruses qu'il a depuis le jardin d'Éden, mais ça marche. Ça marche très bien pour sa cause, et donc pourquoi changer? Et verset 12, il dit voilà, parce que votre combat n'est pas un combat facile, c'est pas une question de un ennemi que vous voyez. Il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc pas contre des humains, hein, même si parfois ça nous fait peur. Hein, Josué et ses hommes, hein, les premiers espions, ils ont refusé d'aller en Canaan à cause des géants. Hein? Mais c'était la chair et le sang, ça. Mais il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre, et il donne la liste, et nous, on ne se rend même pas compte de tout ce que ça représente. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont jusqu'à dans les lieux célestes. Bon, c'est certainement le premier ciel, c'est-à-dire l'atmosphère qui entoure la terre. Hein, c'est pas dans la présence de Dieu. Mais pour Dieu, ça, c'est toutes ces catégories sont des forces qui nous dépassent. Je ne vais pas vous dire ceci, c'est ça, et ça, c'est ça, et ça, c'est ça, parce que je ne suis pas sûr que nous, on comprend. Hein, il y en a qui ont essayé de déterminer ce que ça représente. Je ne suis pas sûr que tout le monde sait. Mais il parle des dominations, des autorités, des princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comment les distinguer? Je ne sais pas vraiment distinguer, mais tout ce que je sais, c'est que c'est plus fort que nous. Et il dit, ça c'est le vrai combat que vous avez. Hein? Verset 13, c'est pourquoi, à cause de cela, parce que c'est un fait réel, c'est une réalité, c'est pourquoi, à cause de cela, prenez, revêtez-vous les armes de Dieu parce que, vu l'ennemi, et parce à cause de cet ennemi, prenez toutes les armes de Dieu. Hein, il le prend dans les deux sens. Et prenez toutes les armes de Dieu et pour deux raisons. Il dit, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, donc quand ça va mal, pour que vous puissiez, quand vous êtes attaqué, hein, plus tard il nous parlera des traits enflammés du malin, il dit, pour pouvoir résister dans le mauvais jour, et aussi pour tenir ferme après avoir tout surmonté, après que c'est fini, tu crois que la bataille est terminée, non, tu continues à les porter. Hein, c'est pas, ouf, la tempête est passée, maintenant ça va mieux. Je peux me relâcher, pas du tout. Tant que le Seigneur n'est pas venu nous prendre, ben, il faut porter l'armure. Et l'armure, ben, pour qu'elle fonctionne bien, il faut l'entretenir. Hein. J'ai pas fait le service militaire, mais j'en ai assez entendu parler des militaires que l'une des premières choses qu'on leur apprend, c'est de nettoyer leurs fusils. Et puis régulièrement, ils sont en train de nettoyer le fusil. Et chaque fois qu'ils sortent, chaque fois qu'ils s'en servent, ils doivent le nettoyer encore. Hein. Et donc, c'est entretenir son matériel. Hein, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous savez, il y a des choses qui courent, il y a toutes sortes de formules qui courent. Les gens, ils vous donnent des moyens faciles. Hein, on dit, ben, tu dis au, tu nous, l'un, il te dit, ben, tu dis au nom de Jésus. N'importe quoi, c'est au nom de Jésus et c'est bon. Un autre, il dit, non, au nom du sang de Christ. Ça, c'est plus fort. Et on entend toutes sortes de formules. Et des gens, c'est des chrétiens de n'importe quoi, qui ne savent pas grand-chose sur la Bible, mais qui sont en train de faire. Ils te donnent des formules faciles pour résister, et ils sont prêts à affronter n'importe qui. En général, ces gens-là, ils parlent bien pendant quelque temps, puis après, on ne les voit plus. Celui qui est trop sûr de lui. Déjà, moi, ça me fait peur quand quelqu'un est sûr de lui, dit non, moi, je crains rien au nom de Jésus et j'y vais. Quand il commence à parler trop sûr de lui, je dis, oh, tu me fais peur. J'ai peur pour toi. Hein, parce que ça me fait penser à Pierre. C'est vrai que le nom de Jésus est un nom puissant. C'est vrai que quand ces hommes ont voulu faire comme Paul, et il dit au nom de Jésus que Paul prêche. Hein, donc ils ont invoqué le nom de Jésus. Il dit, oui, nous on connaît bien Jésus, on connaît bien Paul, mais vous, de quel droit vous utilisez et invoquez ces noms-là? Hein, vous êtes dans quel état? Et ben, ça n'a pas fait peur à ces démons. Hein, finalement, ça a fait le tour de la ville, hein, cette histoire. Parce que c'est pas un nom magique qu'on emploie qui délivre. Si je me sers du nom de Jésus, c'est basé sur quelque chose. Hein, c'est que j'ai une relation avec lui, c'est qu'il me l'a confié, c'est que je suis en train de m'appuyer sur le Seigneur. Finalement, on ne cherche pas les confrontations avec l'ennemi. Parce qu'il est plus fort que nous. C'est des forces qui sont tellement plus grandes que nous. On ne cherche jamais la confrontation. Si on doit être confronté à ces forces, eh bien, première chose, c'est d'abord s'appuyer sur la force toute-puissante du Seigneur. Et deuxièmement, s'assurer que nous avons revêtu toute l'armure. Et là, nous pouvons, il parle de tenir ferme, hein, il ne dit pas combattre, on ne va pas le tuer, on ne va pas l'éliminer, mais il dit de tenir ferme. C'est-à-dire, mes pieds restent plantés, ils ne bougent pas. Hein, je ne recule pas. Afin de pouvoir résister au mauvais jour, afin de tenir ferme. Hein, Et c'est tout ce qu'on peut faire, c'est tout ce que nous pouvons faire, mais c'est merveilleux. Et si l'ennemi nous attaque, c'est parce qu'il ne peut pas attaquer notre Seigneur. Et donc, il essaye de jeter des pierres contre ceux qui lui appartiennent. Hein. Et parfois pire que des pierres, hein, les traits enflammés du malin. Et puis, il y a les ruses, et il y a les pièges. Et comment c'est l'auteur anglais là qui a écrit les ruses du malin. Il a écrit un livre sur les ruses du malin et il donne toute une liste. Et les chrétiens se font avoir tout le temps. Les gens du monde, il n'a pas besoin, hein, ils sont déjà à lui. Donc ces ruses sont contre les enfants du Seigneur et il réussit parce qu'on en perd tout le temps. Et ce n'est pas parce que le Seigneur ne sait pas garder les siens. Hein, donc, c'est une réalité. Il ne faut pas douter. Il y a 2 Corinthiens chapitre 10. Je vais terminer avec ça. 2 Corinthiens chapitre 10. L'apôtre Paul, lui, il sait de quoi il parle. Il a été confronté, bon, physiquement, oui, mais c'était pas ce qui lui faisait le plus de soucis. 2 Corinthiens chapitre 10, et puis je lis au verset 3. Il dit: Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il dit, nous avons un combat, parce qu'on venait de dire de Paul, il dit, ouais, quand il est loin et dans ses lettres, il est fort, mais quand il est présent, il est doux. Ben, il est doux, c'est pas parce qu'il a peur, c'est parce qu'il veut être comme Christ. Ouais. Mais il a dit, dans notre combat, eh bien, c'est même si nous vivons dans un corps, hein, nous sommes physiques, hein, mais le combat que nous menons, c'est pas contre des corps physiques, mais contre des puissances. Et donc les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est-à-dire elles. C'est Dieu qui les garantit, c'est Dieu qui les fait, qui les utilise. Donc, c'est pas. Soit nous savons comment Jésus a résisté à Satan, mais c'était avec des paroles de Dieu. Hein? Et justement, ben, on le verra la semaine prochaine. Ben, l'épée, c'est la parole. Hein? Donc, voilà. Donc, nous avons besoin et on prendra le temps de bien étudier l'armure parce que c'est quelque chose qu'il va falloir et avoir et savoir porter. Afin de. Voilà, c'est nécessaire. Et donc, mais nous n'avons pas à craindre. Hein, c'est autant les forces de Canaan étaient. Les armées de Canaan étaient beaucoup plus puissantes qu'Israël. Hein, c'était des gens qui n'avaient jamais fait la guerre, tandis que les autres, c'était des armées qui étaient en train de se combattre tout le temps. Mais ils n'avaient rien à craindre. Pourquoi? Parce que le Seigneur était avec eux. Hein. Josué a dû sortir. Josué a dû aller à la bataille. Mais si vous lisez bien les détails de Josué, vous voyez que c'est pas lui qui tuait le plus grand nombre au monde. Hein. C'était soit les pierres qui tombaient du ciel, c'était autre chose. Le gros de la bataille, c'était Dieu qui l'a mené. Hein. Et dans notre cas aussi, le gros de la bataille, c'est Dieu qui l'amène, qui nous donne la victoire. Mais il y a une petite partie qui est pour nous. Et nous devons être fidèles dans cette petite partie-là, compter sur lui et de garder. Garder cette. Entretenir nos armes et les utiliser et savoir les utiliser. Donc que le Seigneur nous aide, mais ce n'est pas pour nous faire peur, c'est pour nous dire qu'il y a moyen d'avoir la victoire. Que le Seigneur nous aide. Hein, nous voulons prier. Père Céleste, nous te remercions parce que tu as pensé à tout. C'est avant que Pierre ne soit confronté à sa tentation, toi, tu as déjà commencé à prier pour lui, tu as commencé à lui en parler, tu as voulu lui préparer. Il n'a pas pris au sérieux ce que tu as dit. Il ne s'est pas posé la question pourquoi tu lui parlais de cette manière, mais il est parti dans ses pensées et il a chuté. Et puis ensuite, il pleurait amèrement, comme nous avons souvent pleuré. Mais Seigneur, donne-nous de tirer des leçons de ces principes et que, Seigneur, nous n'ayons pas, comme Josué, à vivre avec les conséquences de notre erreur et notre manque de confiance. Mais Seigneur, que nous puissions dépendre de toi et vivre une vie de victoire, mais en toi. Qu'est-ce que Paul a pu dire, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et il a su être faible au bon moment afin d'être fort et de pouvoir remporter les victoires. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.